Je me trouve actuellement dans le studio ici de Radio Panique avec Manolo Cabra, contrebassiste.
Bonjour Nico.
Bonjour, bienvenue. Tu es plein temps musicien, contrebassiste, et ce n'est pas que toi qui es musicien, aussi ton partenaire, elle est aussi 100% musicienne. Donc votre vie, c'est la musique 100%. L'année passée, en mars, on est confronté avec ce petit merde qui est tombé sur tout le monde. Comment tu as le vécu dans cette période-là? Tu te souviens encore?
Ah oui, absolument. C'est évidemment un choc pour tous. Je vais parler juste au niveau professionnel, évidemment. On avait beaucoup de choses en programme. On avait des sorties de CD, des tours. Évidemment, c'était tout annulé. Et quelque chose, on l'a refait le début de l'été, avant d'avoir un deuxième confinement. Mais qu'est-ce que c'est pour dire? Je ne veux pas aller un peu trop personnel dans le côté dépression, mais en fait, ouais, je te dépresse.
Tu peux le dire. Je pense que c'est important parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'impact sur la vie d'un musicien.
C'était plutôt la perspective aussi. Tu vois. Chaque fois qu'on travaille pour faire un CD, c'est un, deux années peut-être. Ouais. Entre la projetation, la production, tout ça, après la promotion. Et c'était juste le moment qu'on avait des trucs pour la promotion. C'était pas trop difficile à la fin, parce qu'on avait plus de temps pour contacter les journalistes et tout. Mais la perspective de l'air d'un autre niveau. Après la sortie de le CD, c'était vraiment fini. Et alors aussi, la prochaine saison, c'était pas là. On n'avait pas la possibilité d'avoir une deuxième saison. En fait, il y avait des concerts qui sont déjà bougés quatre fois. Quatre fois, on se rappelle encore avec l'organisateur. Tous les organisateurs sont vraiment solidaires avec les musiciens. Hein. Ça, je voudrais le dire, c'est vraiment une grande famille qui essaie de rester là.
Ouais.
Et en fait, après beaucoup de choses aussi, on avait des propositions de faire de live streaming. Mais ce n'est pas toujours possible aussi, parce qu'un concert, tu vois, avec un groupe qu'on est 7 ou 8, faire un live streaming professionnel, ça coûte beaucoup d'argent. Et parfois, on a fait des autres choses. Ah, cette semaine, on est programmé pour la gestation avec un live streaming qu'on a enregistré en fait avant de l'été. Je suis très content d'être encore là avec ce concert, que c'est génial. C'est un nouveau projet avec Linkasir. Et c'est une opportunité, c'était une opportunité en fait. On va dire quelque chose de positif. Avec tout le temps qu'on avait de toute façon libre, ouais. On l'a utilisé pour travailler de nouveaux projets. Comme tu dis, tu vois, moi, ma copine Linkasir, on habite ensemble évidemment, et on avait beaucoup de temps pour faire des répètes, et penser à un nouveau projet. Et je sais que aussi des autres musiciens ont utilisé dans le même moyen le temps qu'on avait. Beaucoup de solos.
Ouais. Et comment est la vie pour vous échanger? Parce qu'en général, vous deux jouez beaucoup, pas ouais. Souvent ensemble. Vous faites des projets ensemble, mais vous êtes tout le temps occupé avec vos projets différents. Et d'un coup, vous êtes vraiment obligé presque de vivre chaque jour ensemble, de matin jusqu'à le soir. Ça quand même aussi... vous confronter avec des choses que vous connaissez pas en avant, j'imagine.
Mais ça, en fait, je pense que j'ai la chance que je que ma copine elle est incroyable.
Ouais.
on s'est bien amusé, surtout au début. On a vraiment utilisé le temps. On a pensé, ok, ça va être 2-3 mois maximum. Et alors, on s'est vraiment amusé, tu vois. Le début, on a fait de la musique pop chez nous. On ouais. A enregistré beaucoup de juste comme ça, pour s'amuser, tu vois. Des trucs que normalement, on n'a pas le temps de faire.
Ouais.
Et après, ok, on a commencé à étudier un peu plus notre instrument, tu vois. On se dédiquait juste à notre chose, vraiment sérieux. Et après, encore, c'était pas fini. Alors, j'ai arrêté d'étudier la contrebasse pendant 2 mois. J'ai commencé à étudier le piano un peu plus, la batterie, des trucs comme ça, tu vois. On a ouais. Toujours un intérêt, ça c'est clair. Après, la part économique, évidemment, c'était pas là.
Ouais.
On a aussi la chance de donner des cours Tu vois, moi, je donne des cours du studio en verse.
Ouais.
Lynn, elle est prof à la conservatoire de Leuven, ouais. Lemmens.
Ouais.
Alors, on a... C'est pas un gros salaire, évidemment. C'est
mais il y a quelque chose qui rentre quand même.
Quelque chose juste pour rester là, ouais. Tu vois. Pour pas aller à les Bahamas pour faire des vacances.
Autrement, tu le faisais ça chaque semaine, chaque week-end?
Non.
On allait avec toi aux Bahamas. OK.
Non, mais peut-être à Canaries, oui.
Okay.
Chaque semaine.
Il faut changer de temps en temps.
Ouais. Non, mais tu vois, qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais,
alors, on attend, en fait, la sensation qu'on a encore, qu'on est bloqué.
Voilà.
On n'a pas une perspective, c'est surtout ça. Moi, j'ai l'habitude, moi, je suis un musicien de jazz. Musicien de jazz est juste ça. Alors, tu sais bien que tu ne vas pas gagner la vie. Avec...
Toi. Comme un rockstar.
Oui, ouais. Ça va.
On est, moi, je suis cool. Je n'ai pas besoin d'avoir une grosse voiture et tout ça, mais je suis très content d'avoir choisi cette musique. Mais évidemment, maintenant, on n'a pas la perspective. On a, tout change. Tout change aussi. Le, comme on a dit avant, le truc d'avoir des concerts online, c'est vraiment différent. C'est vraiment autre chose. Les vibes, c'est différent. Moi, je fais beaucoup aussi des autres enregistrements pour la télé,
mm-hmm.
ou pour des radios. Avant, c'était payé, tout ça. Hein, bien.
Ouais.
Il y avait vraiment un autre système. Quand j'arrivais ici à la Belgique, c'était comme ça. C'était 400 euros pour l'enregistrement à la radio, à la télé. Ça.
Ouais. Et maintenant, ce n'est plus le cas.
Non.
Et c'est bizarre.
Si tu as la chance, c'est gratuit.
Ouais.
Ouais, c'est bizarre. Mais toutes les situations, ça change. Ma préoccupation maintenant, c'est... moi, je suis content de faire maintenant de live streaming. Je suis content d'être là quand quelqu'un m'appelle aussi. Mm-hmm. Je ne pense pas que ça va être le futur et je n'ai pas eu qu'il va aussi avoir des, comme tu dis, des agencies, non agency,
Les bookers.
Oui, des bookers qui vont travailler pour ça, et juste pour ça. Tu vois, des trucs vraiment impersonnels parce que tu peux faire ça avec une plateforme internet, c'est tout fini quoi. On n'a même pas besoin de parler.
Je constate que pour tous les organisateurs, le live, c'est leur vie.
Je ne doute pas de ça, mais l'organisateur qui en parle, on le connaît bien, ce sont des personnes qui ont dédié sa vie à la culture, à la musique, mm-hmm. on se connaît, on parle, ils sont tous des amateurs de la musique, qui connaissent bien la scène. Ouais. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas juste les musiciens et l'organisateur qui décident ça, le marché. C'est mm-hmm. surtout le public. J'ai connu beaucoup de monde qui en fait, est très content d'avoir la musique de l'ordinateur, de mettre 5 euros pour l'étiquette là. Il y a un nouveau business, vraiment beaucoup. Ils n'ont pas aussi vraiment l'idée de ce que c'est un live streaming, c'est enregistré, c'est un YouTube, c'est un...
Ouais.
Et pour nous, c'est vraiment un désastre parce que okay, peut-être on est payé une fois. Pour ça, mais il faut vraiment décider un peu de règles parce que c'est bien, comme j'ai dit avant, c'est super cool que maintenant on reste là et tous les organisateurs qui ont ce programme encore avec un vieux concert, je les remercie. C'est super parce qu'on a besoin de rester là, d'être visible à ce moment-là. Mais j'espère qu'après, on a vraiment des règles très précises. Moi, je l'ai toujours fait de faire un enregistrement pour la télé. C'était là juste une fois à la télé. Et si c'était. Si quelqu'un le mettre de YouTube, alors la télé, il a son droit. Et c'était pas possible de le mettre YouTube. Mais moi, c'est un peu wild, comme on dit en anglais. Sauvage.
Oui, c'est sauvage. Ouais.
Pour le moment, c'est. Ça, c'est ma propos, vraiment.
Ouais. Vu que beaucoup des ordinateurs ont envie. Et qu'ils ont constaté que les streamings sont devenus aussi beaucoup plus professionnels,
ouais.
Que la majorité est vraiment contre de faire un truc sur YouTube de mauvaise qualité, mmh. des choses comme ça. Au départ, ils ont improvisé, comme le Beaux-Arts m'expliquait. Au départ, ils en faisaient le Beaux-Arts at Home, mmh. c'est-à-dire que les gens filmaient sur leur GSM le truc. Maintenant, ils sont professionnalisés, ils ont vu que c'est important de montrer les artistes dans un monde professionnel. Parce que de montrer un groupe dans une qualité de son pénible, ça ne marche pas. Mais ils ont aussi constaté qu'il y a un manque de public. c'est pas de public pour regarder le streaming, mais vraiment pour les musiciens, c'est l'interaction. Et pour eux, c'est vraiment le manque, le vie live.
Oui,
Tu vois, et,
ça c'est évident pour.
et donc, je pense que je peux me tromper, mais avec les gens qui j'ai parlé, il n'y a pas des gens qui sont envie de continuer le streaming pour le streaming. Ils voient plutôt comme une ch chose supplémentaire avec une bonne réglementation, de dire, OK, comment ça va marcher avec les droits d'auteur, ce qui est aussi important, parce que si c'est un truc qui est mis sur YouTube,
Et ça, maman.
ça reste là et c'est souvent des mauvaises qualités. Il y a, comme un musicien me disait aussi, que avant c'était beaucoup de gens qui filmaient ça sur un concert live avec leur GSM et le mettaient sur YouTube, avec des concerts vraiment dans un son horrible, et ça donnait une mauvaise qualité, et c'est aussi une mauvaise impression de ce musicien. Avec les live streaming qui sont maintenant, il y a déjà un certain nombre qui sont professionnalisés, pas tous, mais un certain nombre.
Je peux dire que j'ai vu vraiment des choses très bien faites. Tu vois aussi les concerts qu'on a enregistrés à la Jazz Station avec Flying Nimbus, avec Lynn cet été. C'est super, c'est incroyable. Même la qualité du son, de l'image, c'est super, super bon. Après, j'ai fait des autres. J'ai pensé, ok, ça va être cool parce que c'était par la commune de Skerbeck. Voilà, ok, il va avoir une bonne équipe. Mais après, quand j'ai vu le résultat, c'était vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Alors, ok, c'est pas la bonne publicité. Là, j'ai appris quelque chose. Maintenant, quand quelqu'un m'appelle pour un live streaming, je demande, c'est quoi? C'est comment? Mais il y a beaucoup, beaucoup de ça. Parce qu'il y avait aussi un moyen de donner cet argent de la part du gouvernement, tu vois, que c'était vraiment sauvage aussi. Pas vraiment, ok, cette association pour avoir l'argent parce qu'elle a vraiment travaillé dans ce secteur, dans ce moyen-là. C'était un bon. Ok, le premier qui arrive, il prend l'argent. Ça, je trouve que c'était vraiment mauvais. En fait, il y a toujours besoin d'une commission artistique, je pense. Et à la fin, il avait vraiment des produits de mauvaise qualité, même artistique. Parce que, ouais, un si mon voisin qui fait un autre boulot, que c'est pour demander le même argent, dit, je suis un artiste, ok, je vais faire ce projet. Ça, c'est un truc qui va déjà de la politique, alors on le laisse tomber.
Je pense que c'est aussi important de savoir que il faut se poser la question, est-ce qu'un comité artistique était nécessaire pour ce fonds qui sont, par exemple, le comité flamand a fait ça, qu'ils ont mis de l'argent à disposition sans trop de critères, que c'était facile et immédiatement possible de le mettre en route. Oui, comme tu disais, je pense qu'il y a des très chouettes projets qui sont réalisés avec cet argent-là. Il y a aussi des projets qui ne sont pas du tout réussis, c'est vrai. Mais la question, c'est est-ce que c'était peut-être mieux de le faire dans ce sens-là, au lieu de créer une commission artistique et que ça durait encore 6, 7, 8, 9 mois avant d'approuver et de
Ouais,
donner de l'argent.
ça c'est le problème.
C'est un
Je
truc de
comprends.
l'urgence aussi. Donc je pense que, comme en Flandre, il y a par exemple le Culture Activitäten Fonds qui a été créé et beaucoup de gens ont utilisé. Un certain nombre étaient vraiment très correctement utilisés. Il y a aussi un certain nombre qu'on a des doutes. Et ça, c'est dommage.
L'organisation, évidemment, maintenant, c'est vraiment un truc, un moment d'urgence. Alors, il faut faire des trucs vite. Mais je pense en fait que la moyenne de donner de l'argent pour la culture, souvent, même hors COVID time, c'est un peu la même. En fait, il y a vraiment besoin d'une commission un peu plus sérieuse, je voudrais dire. Vraiment, je pense aussi, moi je suis, toi, moi j'ai pas de statut d'artiste, hein, je demande pas d'argent, vraiment je suis old school et je gagne dans les concerts que j'ai fait et dans les boulots que j'ai fait. Ok, je suis pas contraire à un statut d'artiste ou à de l'argent public a priori, mais je crois qu'en fait, si tu as un vrai producteur qui travaille pour vendre ses disques ou pour faire des concerts, qui a vraiment une idée artistique de qui est là, qui est pas là, dans les artistes, et que l'argent vient distribué par des lieux, des organisations qui font ça vraiment, comme j'ai dit avant, tous les organisateurs qu'on connaît bien, qui travaillent, ils sont vraiment engagés. Il y a des autres qui ne connaissent même pas le nom d'un musicien, qui vient d'un autre boulot gouvernatif et prend un autre boulot qui ne fait pas vraiment le sien. Et je pense, tu vois, je vis toujours ici à Bruxelles, des petits lieux qui n'avaient pas d'argent public, évidemment. Ils faisaient des choses comme ça, mais la meilleure musique de Bruxelles, et normalement, je l'ai vue là. J'arrête mon style, parce que j'aime bien dans la musique, l'esprit que je cherche dans la musique, pas dans le style de musique. Juste, la majorité de la fois, ce n'était pas les trucs communaux les plus visibles.
Durant l'été, il y a le déconfinement qui est arrivé, petit à petit.
Moi, je ne l'ai pas noté, ça.
Mais quand même, tu as eu l'occasion de jouer quelques concerts.
Vraiment,
t'as eu l'opportunité. Ouais. C'est plutôt en septembre.
Fin août, je dirais.
Ouais. Voilà. Donc là, il y a à nouveau le public qui est là. Le vie sociale recommençait un petit peu. Ce n'était pas le vie sociale comme avant.
Oui, ouais, clairement.
C'était... Tu as l'opportunité de revoir les gens, mais à distance et tout ce qui est autour de ça. Donc, c'est un peu, on peut dire, artificiel, mais quand même, les concerts, j'ai vu un concert de toi ici au Jazz Station pour présenter un de vos albums à ce moment-là, Orange Moon, qui était sorti.
Oui, ça, c'était en octobre.
Voilà, et c'est justement...
Juste avant le dernier...
Voilà, la semaine d'après, c'était changé, tu vois. Et ce qui m'a vraiment étonné, parce que durant l'été, j'ai vu pas mal des concerts et j'ai constaté, durant beaucoup des concerts, que le public venait plutôt pour une partie socializing et pas pour écouter de la musique. Et d'autre côté, beaucoup de musiciens n'étaient pas vraiment motivés, mais le concert que tu as donné au Jazz Station, c'est vraiment le contraire. Là, c'était vraiment un concert live et c'était un concert génial.
Ah, merci pour le compliment. Moi, je me rappelle très bien ce concert. On n'avait pas joué depuis plus longtemps. Et, comme je dis avant, on avait bougé beaucoup tous les concerts. En fait, maman aussi, j'ai bougé des concerts pour les mêmes présentations de CD. Et on était vraiment très émotionnés. Je me rappelle, j'étais nerveuse, émotionnée comme mon premier concert.
Ouais.
Parce qu'après l'été... Et oui, on a fait des concerts l'été. Moi, j'ai une nature très pessimiste. Alors, dans l'été, j'ai pensé déjà, OK, on va tomber dans notre confinement. Et ça, c'est vraiment juste pas la vérité. L'été, c'était clair pour moi que ce n'était pas la réalité. Et ce concert-là, on était vraiment émotionnés. Et aussi, tu vois, le fait de jouer à la Jazz Station, que c'est un lieu que chaque fois, il me donne la possibilité de présenter mon projet. Ce n'est pas évident d'avoir des lieux qui vont écrire ce type de musique aussi. C'est du jazz assez moderne. Pas évident, on ne fait pas la pop, qui maintenant prend beaucoup de place aussi dans les lieux de jazz. Rien à dire, hein? Chacun fait ce qu'il veut. Mais la vérité, c'est que mon style, c'est moins et moins écouté de mainstream listener. Et alors, l'atmosphère de la Jazz Station, l'atmosphère que Kostia a créée avant le concert avec son petit speech, c'était incroyable en fait. Et aussi, le public, il y a beaucoup de public qui vient chaque concert là, parce que la Jazz Station, c'est un lieu spécial ici à Bruxelles maintenant. C'est un des dernières pour faire du jazz en fait. Et c'était vraiment intense. On avait vraiment un super contact avec le public de les débuts, mais c'est pas... C'est juste pas pour le dire comme ça, c'était vraiment un des concerts plus touchants de la dernière dizaine. Si c'est un trio vraiment spécial, je pense, très fragile, l'équilibre. Et on aime bien jouer de cette fragilité, de cet esprit qui est pour changer à chaque moment. Je pense qu'Hendrik Blazur et Mathieu Kalejede sont vraiment des musiciens très très spéciaux. Pas évident. Et alors, ouais. Ça, c'était un bon concert, mais bon, les prochains, c'était juste annulé.
Ouais, parce que c'est aussi, comme tu disais au départ, ça dure souvent 1-2 ans avant qu'un album sort.
Ouais.
Et aussi, les dernières années, c'est plutôt évolué qu'une sortie d'un album, c'est plutôt pour générer des concerts.
Ouais, ouais.
Avant, c'était le contraire. Avant, c'était plutôt faire des concerts pour promouvoir le CD. Maintenant, il faut venir avec un CD pour que les ordinateurs aient envie de donner une place dans le.
Ouais, pour avoir un bon lieu, on peut dire comme ça, tu vois. Sûrement, si je veux jouer à Flash, j'ai besoin d'un CD. Je ne peux pas aller oh, un projet très spécial avec des musiciens internationaux, peut-être. Je ne sais pas, en fait. Je n'ai pas un concert à Flash, en fait. J'ai juste joué là comme sideman. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est aussi que tu as dit la bonne chose, mais moi, en fait, j'ai fait encore des concerts avant de faire un CD. En fait, on a sorti cette CD après 3 ans déjà qu'on jouait ensemble. On a joué beaucoup dans mon petit studio, chez moi. On a fait vraiment une recherche là. On a enregistré, on a parlé, on a sélectionné. Et après, en fait, quelques concerts, pas mal de concerts on a fait avant, de petits lieux, ici à Bruxelles, que j'aime très très bien en fait. Ils sont toujours mon préféré encore. Et après, on a fait un CD quand on était vraiment prête. Et même, en fait, après, c'est chaque fois qu'un CD s'est enregistré, il sort, et il y a toujours une explosion d'un monde différent, de les projets que j'aime très très bien. En fait, on voudrait faire déjà un deuxième CD quand ça termine tout ça, parce que j'ai pas envie de bouger à une nouvelle chose. Enfin, ça, c'est un autre problème, que chaque fois que je pense, comme je dis avant, en perspective, c'est bien. Avant, on a pensé, OK, il va terminer cet été, non, le prochain été, et ça, maintenant, on n'est pas sûr, évidemment, tout le monde, il n'est pas sûr. Alors, moi, j'ai décidé d'attendre. J'attends que c'est fini, et après, je vais faire mon prochain projet. En sortie, pendant cette période-là, j'ai fait la production très sérieuse. Je résiste, je fais des répètes, on a beaucoup de résidences en fait, qui arrivent. La production, c'est là. En fait, c'est un moment artistiquement vraiment productif. Là, je suis trop content dans le côté artistique. On essaie de penser pas à le futur pour le moment. On se concentre de l'art. Et on a la chance d'avoir un boulot. Le côté économique, ça va encore. Je sais pas.
Et donc, cette période actuellement, c'est vraiment pour créer des projets pour le futur. Déjà,
Absolument.
comme tu disais avant, ça dure souvent 2 ans avant qu'un album sorte.
Ouais.
Donc maintenant, c'est plutôt de travailler à ce niveau-là et dans 1 an, dans 2 ans, les fruits sont là.
Ouais, je pense que ça peut être aussi vraiment intéressant de voir après que tout ça c'est fini, qu'est-ce que les musiciens comme moi qui ai décidé de rester plutôt à la maison à faire de la musique, qu'est-ce que ça sorte? Parce que je me rappelle aussi quand il y avait beaucoup tu vois, en Italie, moi je viens j'essayais de faire de la musique en Italie avant de bouger à l'étranger dans les années 80, 90. Et il n'y avait presque rien. Encore, il y a presque rien en fait. C'est vraiment difficile à l'Italie de faire des concerts. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de musiciens et pas beaucoup de lieux qui font du jazz et il n'y a pas beaucoup d'argent public, surtout pour la culture. Pour moi, c'était étonnant de voir qu'ici, il y avait des subventions publiques, que c'était possible pour moi aussi de demander. Je ne l'ai jamais fait en fait, mais c'est possible. L'Italie, c'est vraiment pas possible. Alors, chaque fois que j'ai vu des moments de crise, tu vois, économique aussi dans les pays, c'est la dernière grosse crise en Espagne. Je me rappelle que beaucoup des amis qui avant faisaient de la musique, un million entre jazz que j'aime bien et de la production vraiment commerciale pour faire des concerts, pour avoir un certain visibilité, on peut dire. Finalement, quand il n'y avait pas de concert, pas d'argent, rien à faire, ils ont commencé vraiment à produire de la musique. C'était vraiment pour les musiciens même, pour les amateurs de la musique même. Ils ne pensaient pas de rentrer dans le circuit de la grosse public. Que parfois, c'est juste un public, il a pas envie d'écouter de la musique, c'est juste le public qui écoute la musique dans le téléphone, ou dans le petit baffle de la toilette et dans ouais, aucun manche, des trucs comme ça. Ça, c'est un public qui existe. Probablement, c'est le plus gros public qui produit d'argent. Mais ce n'est pas le public que je veux toucher. Moi, j'ai fait la musique parce que je suis un artiste et je veux faire de l'art et je veux toucher le public, l'intéresser à l'art, pas à la musique pour les toilettes.
Et comment tu sais maintenant te nourrir parce qu'il y a le manque de public et comme musique, c'est comme tu viens d'expliquer aussi, le public qui joue un rôle super important, qui tu restes actif dans toutes des choses possibles, mais le public et la vie sociale, artistique.
Ah ouais, ça, c'est triste. Je pense que tu as déjà dit ça. Bon, tu vois, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Aussi, c'est une de les raisons parce que je ne suis pas trop content de faire de live streaming. C'est vraiment ça, tu vois. Moi, je joue beaucoup mieux avec le public. Vraiment, c'est la concentration, la responsabilité aussi de transmettre à un moment donné un esprit que je dans à le public, tu vois, et le public qui te le redonne dans le moment, tu vois, j'ai terminé, même pendant que je joue, je note le public, c'est là, c'est pas possible en fait de remplacer ça, c'est vraiment pas possible. Et on a vraiment un autre côté aussi, tu vois, les musiciens toujours font des sessions chez nous. Mais c'est une autre façon de faire la musique. C'est un autre moyen aussi, comme quand on rentre en studio, tu vois, un album live ou un album studio, c'est vraiment différent. C'est de la musique différente. C'est vraiment un autre projet. Moi, j'aime bien faire studio, je l'adore. Mais c'est vraiment un autre boulot.
Métier.
C'est pas pour la production, moi, même si j'improvise juste, c'est vraiment un autre type de concentration. Alors ça, on peut le faire encore, pas trop, parce qu'on peut pas, on peut avoir juste un personne chez nous, si c'est pas avec un contrat, et dans un studio avec tout le... Ok. Ça, on l'a encore, tu vois, même chez nous, moi et Lynn, chaque nuit, en fait, pré-dîner, on fait un jam, on joue. On joue de la musique de fond, encore, on travaille beaucoup. Alors, ça, j'ai la chance que je peux le faire parce que, comme tu as dit, ma famille, c'est musicienne. Alors, cette part-là, ça m'amène pas trop, le public, d'aller à un concert. Tu vois, prendre la bagnole, mettre un truc, faire un soundcheck, avoir les contacts avec une dizaine du son, on parle de. Ça m'en manque trop. Et tous les musiciens que je connais, on a vraiment un gros problème là. En fait, je m'efforce toujours de jouer et de continuer ma recherche de la musique parce que j'ai peur de perdre quelque chose comme ça. Si le public c'est là, c'est pas là, je sais pas si je vais arriver à continuer à tenir ce type de concentration là avec la musique.
Et comment tu vives avec l'idée que ton rythme biologique est changé? Je pense que c'est un peu dans ce sens-là que avant tu voyais la lune presque plus que le soleil. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Comment tu sais vivre avec ça, de voir le soleil plus que la lune?
Mais tu parles de quel soleil? On est en Belgique, Nico.
mais quand même, la lumière, on va dire la
La
lumière
lumière,
naturelle.
ok. Mais en fait, normalement, s'il n'y a pas un vrai soleil, je mets la lumière artificielle et je reste dans mon studio. Alors, moi, je veux dire, j'aime toujours la nuit. En fait, je continue à travailler à la nuit. Je peux jouer chez moi à la nuit. Et ouais, le soleil, j'aimerais bien le soleil, mais en Sardaigne, peut-être, je viens de là. Je travaille, tu vois, je donne des cours, je fais mon truc la journée. Mais le rythme biologique, c'est pas trop changé pour moi, en fait. Je reste encore, je travaille beaucoup, j'ai l'habitude de travailler à la nuit parce que j'ai plus de concentration, j'ai pas de distraction, de téléphone, de comme ça. Et aussi, je travaille beaucoup de leçons, tu vois, je fais beaucoup de mix, je travaille aussi comme ingénieur du son pour mon projet, pas professionnellement. Et pour ça, j'adore faire la nuit.
C'est beaucoup plus intense.
Ouais, tu peux dire intense aussi, mais c'est juste aussi un truc vraiment pratique, tu vois, parce que la nuit, il y a du silence.
C'est ça.
Alors, je peux vraiment faire un mix ou jouer très faible, faire des super enregistrements très faibles à la journée. Si tu vas pas dans un vrai studio très bien sonorisé, que c'est pas mon cas, c'est difficile de faire ça. Mais de toute façon, je dirais que comme musicien de jazz, moi, je suis une somme aussi. Je peux pas. J'étais problème à dormir de le début de ma vie. Après, ma maman m'a dit que c'était toujours comme ça. Alors, j'ai accepté ça, que je dors quand je dors. Et je me réveille quand il faut me réveiller aussi.
Mais j'imagine aussi que avant, c'était, ça n'arrivait pas. Je dis pas que ça n'arrivait pas, mais d'être chez toi à la maison le soir, c'est quand même une adaptation incroyable. Avant, comme musicien, tu étais beaucoup en route. Les concerts se faisaient le soir, la nuit.
Ah oui, oui, oui. Mais là, on parle encore d'un truc de liqueur, non? On parle de couvre-feu, non? Le problème, c'est que moi, à 10 heures, je rentre chez moi. Ça, c'est un grand problème. Ouais. Mais en fait, de ce côté-là, je peux dire, tu vois, ma vie sociale, moi, je suis musicien, la majorité de mes amis sont musiciens. Un des lieux qu'on s'est rencontrés, c'était toujours des bars à musique. Voilà. On a fait beaucoup de jam sessions, on a été à écouter les concerts des autres. Et c'était là, en fait, la vie de le musicien que ça change aussi, parce que j'ai connu beaucoup de musiciens que j'ai vus pour la première fois. Je ne savais pas que ça existait ici à Bruxelles. J'ai fait beaucoup de collaborations et ma vie intellectuelle, c'est là. Ouais. C'est pour moi, la vie sociale, c'est ça, c'était toujours la musique. Mm-hmm. J'aime pas trop à l'heure des amis à faire des dîners. Tu vois. J'ai beaucoup des amis italiens qui aiment ça. J'aime bien manger bien, mais peut-être après on fait la jam. on écoute de la musique. C'est pas, mais je préfère rencontrer des musiciens dehors, un lieu social. Pour moi, la vie sociale, c'est ça. Ouais. Et évidemment, c'est pas là. Ça, c'est... Je ne peux même pas parler de ça. Je suis tellement touché de ça que ça, c'est super triste pour moi. Ouais.
Ça implique Marie aussi un peu que avant c'était beaucoup plus facile de rencontrer des nouveaux gens, des gens que tu ne connaissais pas du tout, des choses occasionnelles. Absolument. Qui s'arrivaient. Ouais. Et d'un coup, donc c'est-à-dire qu'aussi, ce n'est pas que dans la vie des artistes, je pense que pour beaucoup de gens, que leur connaissance est réduite maintenant.
Absolument. Mais en fait, quand je parle de la vie d'artiste, ça veut dire artiste et public. Artiste, organisateur, technicien et public. Voilà. On est une famille. Moi, j'ai des fans, je peux dire qu'elles sont, je peux les appeler des fans, qui me suivent parfois de villages que je ne connais pas. Tu vois, un créé qui fait 150 km pour venir écouter ce groupe-là. Alors ça, c'est ma famille. Voilà. Je les connais personnellement, je parle avec, je connais les noms, les boules, tu vois. C'est ça que j'ai dit avant, je ne suis pas trop intéressé à le grand public que je ne connais pas. Je suis très intéressé à le public dans la possibilité de faire ma musique comme un artiste libre, de m'exprimer dans mon propre art comme je veux, et ils aiment bien ça. Alors, il y a un public. Ouais. Ce n'est pas un grand public que... Il va générer, non, ça c'est pas un verbe, qui va faire d'argent pour une grosse production, tu vois, qui va donner beaucoup d'argent aux grosses productions, mais quand même va tenir un certain type de culture, d'art, vivre, un positif, pas un négatif. Ouais. Tu peux faire d'argent, pas beaucoup, mais alors qu'est-ce que c'est la culture, l'art? On parle de business, on parle d'art. Moi je suis prêt à faire de l'art gratteuse. Pour un public qui ne paye pas même, mais personne ne va gagner d'argent. Ouais. Mais pour le moment, il y a un public qui paye, un musicien qui ne gagne pas beaucoup, il y a beaucoup d'argent qui va dans notre parc, on ne sait pas bien. Alors, évidemment, ce n'est pas mon cas. Moi, je reste d'un type de market, de marché qui a la possibilité d'exister, de faire un business honnête, mais petit, il est très content d'être là. Tu vois. Évidemment, tu vois, il y a des producteurs qui vont créer encore qu'il y a des musiques alternatives, qu'il y a un valeur qui va rester. Alors, et évidemment, c'est, pour les musiciens aussi, c'est facile pour certains musiciens de faire un truc et l'autre, ou un truc ou l'autre. Tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais encore jeune. J'avais la possibilité Moi, j'ai fait beaucoup de la pop quand j'étais en Italie. J'ai gagné assez d'argent et j'avais aussi la possibilité de le faire à un niveau un peu plus gros, tu vois. J'ai travaillé pour l'agence à Milan, il y avait vraiment de bons artistes à niveau économique, tu vois, des bons contrats. Et j'ai décidé de laisser cette réalité-là. Sans argent, j'ai bougé. J'ai commencé à aller dans l'Europe à chercher un lieu. Et finalement, j'ai resté ici à Bruxelles parce que je pensais exactement qu'il y avait ce type de musicien qui avait vraiment le courage de se proposer de son propre esprit sans compromis. Moi, je me rappelle, c'était vraiment étonnant. Moi, j'étais en Hollande, c'était une période-là. Et j'avais connu avant Marc Patrement. C'était un super batteur qui vit ici à Bruxelles, qui à l'époque était à Anvers. Et avec lui, j'avais joué avec Eric Vermeulen, c'était vraiment la raison que j'ai décidé de venir vivre ici à Bruxelles. Ouais. C'est un des meilleurs musiciens que je connais ici dans l'Europe. Il est un génie du piano, du jazz, de la musique. Pas trop considéré maintenant, mais quand même, tout le monde connaît Eric et tout le monde dit que il est incroyable, ça. Il n'y a pas de doute. Ok, j'ai connu lui. Après, j'ai vu la scène. À l'époque, il y avait des musiciens comme Benz Laus aussi que j'ai commencé à jouer avec lui. À cette époque-là, c'était un quartet avec Jeroen van Eersel et Marek Patrum. Après, j'ai vu des musiciens, j'ai collaboré avec des musiciens comme Joseph Desmoulins. À ce moment-là, c'était début année 2000, je pense. Tout comme ça. 2005, peut-être. Et c'était vraiment difficile dans les autres pays de l'Europe de trouver vraiment ce type de groupe dans les programmes de les gros festivals. En Italie, c'était déjà de la pop, mais pas des musiciens qui faisaient de jazz pop, de la pop, des chanteuses de pop qui étaient programmées. Maman, elle arrivait aussi à la Belgique. Hein. On peut voir Sting, Qu'est-ce que tu veux, Erykah Badu. Bon. Mais, tu vois, j'ai décidé de venir ici à Bruxelles pour l'esprit de le musicien. Pas pour les possibilités économiques, ça, c'est sûr.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore toujours, peut-être c'est changé, mais encore ce type d'esprit qui existe à Bruxelles?
L'esprit, c'est encore là. Les musiciens, les artistes, et même les programmateurs qui vont faire ça. Tu vois, parfois, je demandais des concerts. De centres culturels. Je te dis juste un exemple. Les centres culturels me répondent, j'aime très bien ta musique, j'aimerais vraiment bien le faire, mais on n'a pas l'argent pour faire ça. On a vraiment un programme que c'est pas imposé, mais déjà fait par des autres organisations. Alors, il y a une sorte de monopoly aussi des organisations qui prennent, tu vois, un, deux, trois managers, je ne sais pas combien, mais moi je les connais tous, mais j'ai fait juste exemple. Et après, qui fait toute l'organisation pour tous les centres culturels de la Flandre, tu vois, des applications, des trucs comme ça. Si tu vois un musicien libre comme moi, que je ne travaille pas avec une organisation, avec un manager, c'est vraiment difficile de prendre un concert de centre culturel, ce n'est pas possible. On va jouer là avec un RP, que c'est pas possible de travailler avec cette papier-là pour un vrai artiste. En fait, pour moi, c'est juste un truc illégal que je sais pas parce qu'il existe encore. Moi, j'étais forcé à l'utiliser parfois parce que je voulais vraiment jouer dans ce lieu-là. Il y avait juste que cet argent-là. Alors, ok, on prend des costs. Enfin, c'est ça. Je te prends juste les costs que tu avais pour faire un répète, pour manger. Exactement, on est encore là. L'esprit de les musiciens, c'est encore là. Les organisateurs qui vont faire ça sont encore là. Mais il n'y a pas toujours la possibilité de le faire parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie et de moyens d'organiser, de distribuer l'argent public, que c'est la façon de faire des concerts ici à la Belgique. Il n'y a pas beaucoup de privés. Alors, c'est difficile, tu vois. C'est pour ça aussi que souvent, tu as vu mon présentation de CD de lieux comme Gestation, ou de lieux comme Sounds, que maintenant c'est fermé, c'est fini, les Sounds, les gars, c'est fini. C'est très triste. Mais C'était un super lieu pour représenter.
Durant des années et des années.
Des années. Tout le Barcelona Orchestra, elle est née là, tu vois. Ouais. Ça, c'était un centre culturel, pas public. Ouais. C'était un centre culturel.
Ouais. Et est-ce que tu vois une grande différence entre les centres culturels en Flandre et Wallonie?
Ah ouais, carrément. Mais il y a beaucoup de différences. Pas en négatif, en positif, c'est vraiment simplement vraiment différent. Si, mais évidemment, ça dépend aussi de l'école. Tu vois, aussi, tu vois, il y a deux choses que tous les musiciens, chaque fois qu'ils sortent un disque, de prendre, c'est le Jazz Lab et le Jazz Tour. Ouais. Alors, un, c'est flamand, l'autre. Ouais. Il faut faire des applications, d'envoyer des choses, blablabla. Après, le thérapeute, peut-être tu peux l'avoir. Là. Alors, tu vois que l'organisation, c'est très différent au niveau technique, au niveau pratique, bureaucratique, le public aussi, et la publicité parfois. Alors, d'un côté à l'autre, tu peux voir okay, qu'il y a des centres culturels, qu'il y a encore quelqu'un là, qu'il était là parce qu'il est né avec le centre culturel, tu vois, il a vraiment une équipe, il travaille pour son boulot et des autres, ils ne sont pas là parce qu'ils sont juste arrivés dans notre bureau gouvernatif qui ne connaît rien, je l'ai dit avant, des techniciens qui sont sortis d'une école qui ne connaît pas un micro. Ouais. Tu vois, moi, je suis un ingénieur du son et parfois, c'est vraiment difficile de faire les soundcheck. Vraiment. Ouais. Parfois, c'est vraiment waouh. Parfois, on a décidé vraiment, ok, laisse tomber, on fait acoustique. Alors, et ça s'est passé dans un centre culturel avec des matériels incroyables. Ouais. Tu vois, que je rentre, c'est waouh, ça c'est super. Ouais. Les différences sont vraiment beaucoup. Moi, ça que moi, je me rattriste beaucoup parfois, que je vois quand je parle de la façon de faire de la poupe, d'attirer des publics. Parfois, ça n'existe vraiment pas. Parfois, j'arrive dans un centre culturel qu'il n'y a même pas une affiche avec mon nom. Qu'il n'y a rien. Alors, tu vois que tout le monde s'en fout. Tu rentres, il y a 15 personnes que probablement, il y a l'abonnement annuel. Et rien. Alors ça, je pense que, comme j'ai dit avant, je pense que la distribution d'argent pour la culture, je pense qu'il faut vraiment être reconsidéré et avoir un minimum de méritocratie pour le lieu que le fait vraiment avec son corps et avec une vraie préparation, une culture musicale. Parce que moi, je suis un peu fatigué de parler de musique avec des programmateurs, même des journalistes. Hein, et je dis un homme de musicien trop connu pour. Et l'autre personne me dit quoi? Qui? C'est, ouais, ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème.
Ouais.
Alors, pas tout le monde faut avoir une grosse culture, mais si tu travailles avec ça, peut-être, ouais. Je veux dire, c'est un peu comme les politiciens, non?
Absolument.
Alors, si on parle moins des politiciens, on peut parler moins de tous les musiciens, organisateurs et journalistes. Mais de toute façon, je voudrais dire qu'il y a toujours. De pas seulement de musiciens ou d'organisateurs, mais de simplement de fonctionnaires qui veulent faire ce boulot-là. C'est très intéressé. Ils essaient vraiment de trouver un moyen pour comprendre comment ça marche, pour rendre la vie de la musicien meilleure. Ça, c'est vraiment un truc plus humain. Je ne trouve pas une organisation bureaucratique ou organisatif. C'est vraiment une personne qui dit ok, ce mec-là, il aime bien ce que j'ai fait, il voudrait vraiment bien organiser quelque chose avec moi, et alors on va le faire. Et là, on rentre dans une sphère vraiment humaine, on fait tout ce que c'est possible pour le faire.
Donc quelqu'un qui essaie de créer une sorte d'histoire avec toi, de dire voilà, absolument. On va faire quelque chose ensemble.
Ouais. Et ça, je trouve que de les deux côtés, ça existe beaucoup. Et en Belgique, c'est encore là. Les autres pays, je parle beaucoup de l'Italie parce que c'est mon pays. Évidemment, là, j'ai vraiment souffert. Pour moi, c'était difficile. J'ai sorti de l'Italie parce que j'ai vraiment avant dans la Sardaigne, qui était déjà ma petite île. J'avais vraiment pas la possibilité de travailler là avec mon art parce que c'était pas possible. Tu vois, c'était, il n'y avait pas la place pour ce type de musique, pas même un petit place.
Non.
C'était vraiment fini. Tu vois, c'était aussi, ici à la Belgique, je trouve toujours la place, encore. Et je sais qu'il y a des lieux très hauts, mais et comme je dis avant, tu vois, si tu veux jouer un type de musique, c'est pas juste pour faire d'argent. En Italie, c'est difficile, vraiment difficile. Hein, et tu n'as jamais en visibilité, ça c'est sûr.
Oui, parce que si on va en Italie, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes.
Incroyablement beaucoup. Il y a une grosse tradition. Et je suis toujours étonné combien de musiciens incroyables il y a. Mais partout, l'Italie, c'est grand. C'est,
ouais,
tu vois, la Belgique, c'est grand comme la Sardaigne. Hein.
Ouais. Mais si on compare, par exemple, l'Italie avec la France, je vois quand même en Italie, plutôt dans la musique contemporaine, de musique d'improvisation, ça vit vraiment.
La musique et l'art, oui, mais je ne connais pas beaucoup de musiciens qui vivent avec ça au niveau économique.
Voilà, ouais.
Même faire un contrat comme je fais ici, c'est un rêve en Italie. Il y a un système encore fiscal absurde, vraiment absurde, quand tu es vraiment self-standing, tu es indépendant. Il y a trop de taxes et ce n'est pas possible. Moi, je l'ai fait pour des années en Italie. Ce n'était pas possible de vivre juste avec la musique. Tous les musiciens que tu connais qui font des trucs alternatifs, on peut dire, ils font un autre boulot. Mais tu vois, un autre boulot, vraiment.
Mais
pas part-time.
Voilà, c'est vraiment full-time, c'est vraiment
ouais,
un boulot.
Oui, c'est lobby. La musique, ça devient
voilà,
un lobby.
Voilà, c'est ça. Et que c'est quand même des musiciens professionnels.
Absolument. On part vraiment, même si tu joues avec les super famous, tu es là pour des années, tu vois, je connais pas, les meilleurs bassistes, je parle des bassistes parce que pour un bassiste, c'est pas évident de rester là. Tu vois, un trompettiste, c'est plus facile, mais les bassistes, peut-être il y a 2-3 ans que fait les leaders, et c'est vraiment difficile d'être un leader. Si tu penses dans le bassiste de tout le monde, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup, même maintenant. Tous les meilleurs bassistes que je connais à la Belgique, oui, on a tout un groupe. Mais on ne joue pas beaucoup avec notre projet. Ça, c'est un truc normal, ça c'est normal de l'histoire. Tout le monde préfère voir un trompettiste. Hein. Et ça, c'est cool, rien à dire. Moi, je suis très contente avec mon carrière et mon groupe et toutes les possibilités que j'ai vues de jouer avec ce projet-là.
Ah, super.
Mais je veux dire, après, c'est vraiment difficile de faire cette musique-là, de continuer à travailler dans ton projet, c'est 5 jours par semaine, tu travailles encore out.
Ah.
Et ça, c'est un peu la réalité en Italie. Enfin, moi, je jouais avec des musiciens très famous là, mais ça ne changeait rien après, quand c'est fini, les contrats avec les musiciens famous. Et tous les mes musiciens préférés en Italie, ils ont un autre boulot. Qu'il y a la chance de donner des cours de musique. Mais ça aussi, c'est difficile. Il n'y a pas trop de conservatoires, pas trop d'académies et tout comme ça. Alors,